bien. Physiquement, vous allez bien? Moi, pas trop. Mais moralement, ça va. Donc j'espère que moralement, ça va. Parce que c'est vrai, on peut vivre des épreuves dans la vie, mais avec le Seigneur, c'est différent. Excusez-moi. Mon message ne parle pas de moi. J'ai à cœur de vous partager sur la séduction hier, aujourd'hui et demain. Et pourquoi j'ai à cœur de vous partager ça? Parce que j'ai vécu des expériences dont je vais vous témoigner, mais je me rends compte qu'en discutant avec les personnes, parfois les personnes pensent des choses de la part de Dieu, mais qui ne sont pas vraies. Et la séduction, c'est ça. La séduction, c'est un peu de ce qui n'est pas vrai dans beaucoup de choses qui sont vraies. Et ça nous séduit et ça nous fait. Enfin, on finit par croire que l'ensemble n'est pas vrai. La séduction, c'est l'action de séduire, de corrompre, de charmer. La séduction, c'est quelque chose qui vient doucement. Et on va prendre un exemple de la séduction d'hier dans Genèse 3. Pour la plupart, vous connaissez. C'est quand le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le serpent savait très bien que Dieu n'avait pas dit ça. Mais il est venu sournoisement dire, Dieu a-t-il réellement dit? Et on connaît pour la plupart les catastrophes que ça a eues sur l'humanité. Parce que, malheureusement, ni Ève ni Adam n'ont pu se tenir devant Dieu dans la confiance de ce que Dieu avait dit, mais ils se sont laissés séduire. C'est pour ça, quand je vous disais tout à l'heure, la séduction, ça vient tout doucement. Ça ne fait pas de bruit. Mais quand ça vient, petit à petit, ça détruit. Une autre séduction d'hier, c'est dans Matthieu 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. On voit là Satan qui attaque Jésus dans son identité. Si tu es le Fils de Dieu, sous-entendu, est-ce que réellement tu es le Fils de Dieu? Est-ce que réellement, sans parler de Jésus, mais toi qui es là ce matin, tu es le Fils ou la fille de Dieu? Est-ce que réellement tu l'es? Et c'est important de se poser cette question et d'avoir cette assurance que nous sommes fils et filles de Dieu, parce qu'autrement, l'ennemi viendra d'une manière ou d'une autre essayer de nous séduire. La réponse de Jésus, c'est, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et en fait, on voit là que Jésus ne se laisse pas impressionner par ce que Satan lui dit. Et il n'y a rien qui touche son identité, parce qu'il connaît son identité, et il ne se laisse pas séduire par ce que le diable lui dit. Et évidemment, quand on parle de nourriture, c'est la séduction de la chair. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, encore une fois, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » La première fois, Satan interpelle Jésus en lui disant « Si tu es le Fils de Dieu. » Mais quand il lui dit ça, il n'utilise pas la parole de Dieu. Par contre, là, non seulement il lui dit « Si tu es le Fils de Dieu » et derrière, il utilise la parole de Dieu. Et ce qu'il dit est vrai. On le trouve dans le psaume 91, versets 11 et 12, où il dit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Mais évidemment, Jésus connaît son ennemi. Et c'est ça aussi qui fait toute la différence. Quand nous connaissons notre ennemi, nous n'allons pas nous laisser séduire. En tout cas, pas de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'on ne se laissera jamais séduire, mais on sera quand même alerté. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu » dans Deutéronome 6, 16. Et donc là, il a essayé de séduire Jésus par la parole de Dieu. Nous savons qu'il est rusé, puisque le serpent était le plus rusé de tous les animaux, mais nous savons que l'ennemi est rusé, et très rusé. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Jésus connaissait la parole de Dieu, parce qu'il est la parole de Dieu. Et jamais il ne s'est laissé séduire au travers de ce que l'ennemi a voulu faire. Alors, le diable le laissa. La séduction aujourd'hui. Est-ce que une, deux, trois personnes peuvent me donner des exemples dans lesquels vous avez été séduit ou séduite. Vous n'avez jamais été séduit? Jamais été séduite, Jean-Claude? Des fausses promesses. Oui, entendre des promesses et qui ne sont pas vraies. Appâter les gens avec des mensonges. Par exemple, quelqu'un d'autre? Des faux discours, ça peut être, oui, c'est pas des promesses, ce sont des discours. Donc, y a des gens qui vont vous parler et qui vont vous faire avaler l'hameçon, la ligne complète. Et on appelle, alors, on a tendance à mettre ça sur le dos des hommes, des beaux parleurs, mais il y a aussi des belles parleuses. Et on peut trouver ça vraiment dans notre société et parfois dans l'Église. Cette semaine, est-ce que vous avez été séduit par un homme, par une femme, par une voiture, par un animal, par la télé ? Par les politiques. Et pourquoi je mets tout ça? C'est parce qu'il y a trois petits points. Il y a tellement de situations dans lesquelles on peut être séduit. Et si on n'y prend pas garde, alors on pourrait dire, mais non, comment être séduit par une voiture? Mais parce que tu vois une voiture et tu commences à t'imaginer, mais si on me voyait dans cette voiture, on penserait que je suis ceci, que je suis cela. Et en fait, on est séduit parce que ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la réalité. Nous sommes qui nous sommes et on n'a pas, en tout cas, j'espère, on n'a pas à démontrer aux autres qui nous sommes. Mais nous devons apprendre à vivre qui nous sommes, des enfants de Dieu. Nous sommes un peu comme endormis. Donc un peu, j'aurais pu mettre ou beaucoup vulnérables. Je suppose que la plupart des gens connaissent le livre de la jungle où il y a le serpent qui hypnotise et qui chante à l'oreille de Mowgli. Et c'est là aussi, ça passe, tu peux nous le mettre.
Confiance en moi. Aie confiance, crois en moi, que je puisse veiller sur toi. Attention, va descendre. Fais un son sans méfiance. Je suis là. Aie confiance. Le silence propice te berce. Souris et sois complice. Laisse tes sens glisser vers ces délices dans ta trice. Tu dors, petit ?
Oui.
Aie confiance, oui, crois en moi, que je puisse veiller sur toi.
Et là, heureusement, le tigre intervient et Dieu envoie parfois quelqu'un pour nous sortir de situations qui sont compliquées. Mais est-ce que vous n'avez pas vécu dans votre vie des moments comme ça où des personnes vous disaient « Mais fais-moi confiance. » Et parce que vous avez donné votre confiance trop rapidement, vous avez été séduite, et ça vous a coûté dans votre vie. Et parfois, on pourrait rendre Dieu responsable de ça, alors que Dieu n'est pas responsable de ça. Ce n'est pas ce que Dieu veut. D'où l'importance de nous approcher de Jésus, de nous approcher de Dieu, afin de vivre cette relation qui va nous permettre de ne pas nous laisser séduire. Pardon. Je vais vous raconter le témoignage d'un couple qui date de juin de cette année pour vous dire que Dieu opère encore aujourd'hui. Et que ce n'est pas quelque chose qui s'est passé loin, ou il y a longtemps, une histoire qu'on m'a racontée, que je vais vous raconter, mais quelque chose que j'ai vécu avec Nathalie pour un couple. Et j'avais l'occasion de discuter avec une des deux personnes et de lui dire que ce qui était important, c'était d'être dans la vérité. Je crois qu'il n'y a rien de plus important pour un chrétien d'être dans la vérité. Et on avait partagé de choses et d'autres, et le lendemain, la personne m'appelle et puis elle me dit « Est-ce qu'on pourrait venir vous voir, toi et Nathalie, parce qu'on a des choses à vous partager ?» Je me permets de vous raconter cette histoire parce que ça n'a rien à voir avec des gens de Betsalel. Et donc ces personnes viennent à la maison et puis elles nous confessent quelque chose qui était difficile à confesser. D'un péché qui datait d'il y a 4 ans. Et puis, une des deux personnes était avait des angoisses, elle était sous anxiolytique, je pense que je mets. Mais quand même, oui, avant de donner le témoignage, la maladie peut avoir plusieurs causes. Parce que le témoignage que je vais vous donner, il ne faut pas dire parce que je suis dans cette situation, c'est à cause de ça. Mais en tout cas, la maladie peut avoir plusieurs causes, une hérédité familiale, une mauvaise hygiène de vie, un stress chronique, mais parfois, c'est lié à un péché précis. Et là, dans ce témoignage, c'est lié à un péché précis. Donc le péché qui date d'il y a 4 ans. Et la personne prend des anxiolytiques depuis 2 mois. Elle est allée voir son médecin et le médecin dit, vu son état, les angoisses, le diagnostic du médecin, c'est vous faites un burn-out, donc je vais vous donner des anxiolytiques. Et donc la personne prend des anxiolytiques pendant 2 mois. Après être venue à la maison, on a eu l'occasion de prier pour eux. Nous l'avons revue, ou je l'ai revue le lendemain. Et puis je lui ai demandé comment elle allait. Et elle m'a dit, ça va mieux. Ça va mieux, je me sens moins angoissée. Et je lui ai dit, mais tu sais, à partir du moment où tu entres dans la démarche de confesser ton péché, il ne faut pas croire que le diable va te laisser tranquille. Ne sois pas étonné si dans les jours qui viennent, les angoisses vont revenir. Mais là, tu as l'autorité pour ta propre vie de dire, je refuse ces angoisses au nom de Jésus. Et on se quitte là-dessus. Je la revois une semaine plus tard et je lui demande comment elle va, alors que je voyais très bien sur son visage qu'elle était différente, que vraiment Dieu était intervenu parce qu'en fait, elle avait confessé son péché. Et Dieu l'avait délivré. Et cette personne me dit, ça va beaucoup mieux. Et ce que tu m'as dit, effectivement, j'ai expérimenté durant la semaine, à 3 reprises, j'ai senti les angoisses revenir. Et donc là, je ne vous parle pas d'un témoignage de non-chrétien, je vous parle d'un couple chrétien, d'une certaine manière même engagé dans l'Église. Le fait de confesser notre péché, nous enlevons toute possibilité à l'ennemi. Et donc elle me dit, j'ai vécu effectivement, à 3 reprises, j'ai dû prendre autorité et l'angoisse est partie tout de suite. Donc oui, l'ennemi reviendra peut-être dans des situations, mais nous avons l'autorité sur nos propres vies. Et utilisons cette autorité que Dieu nous a donnée. Et dans la conversation, cette personne me dit, mais est-ce que tu penses que je peux arrêter mon traitement? Je dis, écoute, moi je ne suis pas médecin. Donc je pense que ce serait bien que tu ailles voir ton médecin, que tu discutes avec lui et que tu vois un peu ce qu'il en est. Et dans la conversation, elle me dit, mais tu sais, durant 2 mois, jamais j'ai oublié de prendre mon traitement. Parce que les angoisses étaient présentes. Et là, depuis une semaine, j'ai peut-être pris 3 fois le traitement parce que je me suis souvenu que j'avais un traitement. Mais j'ai dit, écoute, je pense que tu viens de te donner toi-même la réponse. C'est que je pense que tu n'as plus besoin de prendre d'anxiolytique. Puisque tu n'en as plus besoin. Et ça, c'est ce qu'elle me disait. Mais encore une fois, je lui dis, moi, je ne suis pas médecin. À ce jour, cette personne ne prend plus d'anxiolytique. Elle est libérée. Et il n'y a plus d'angoisse. Pourquoi je vous donne ce témoignage? C'est parce que parfois, nous sommes dans une fausse compréhension en tant qu'enfants de Dieu. Nous croyons que parce que nous sommes enfants de Dieu, Dieu va venir à notre secours, même si nous restons dans notre péché. Et comme je l'ai dit au départ, la maladie peut avoir plusieurs causes. Et vous savez qu'actuellement, depuis plus d'un mois, j'ai des douleurs. Et évidemment, je pose la question au Seigneur. Seigneur, est-ce qu'il y a des choses dans ma vie que j'ai faites et qui donne aujourd'hui un accès à l'ennemi dans ma vie. Parce que je ne veux pas que l'ennemi ait des accès dans ma vie. Mais parfois, nous tombons dans des choses, dans de la séduction, et nous nous voilons parfois la face. Donc elle a vécu une délivrance et une guérison, un peu comme David quand il a dit au psaume 32:3, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Et en fait, ce qui est quand même, et je crois que c'est important de le dire, dans ce couple, ils avaient vécu le pardon, ils avaient confessé. Et la parole de Dieu nous encourage aussi à confesser nos péchés les uns aux autres. Et je ne crois pas que ça doit se faire systématiquement. Mais en tout cas, dans ce cas-là, le fait d'être venu nous voir, d'avoir confessé, ils ont été complètement délivrés. Il y aura des situations pour lesquelles vous allez traiter ça avec Dieu et vous serez délivré ou guéri, ou les deux. Mais si ça perdure, n'hésitez pas à aller voir des frères ou des sœurs de confiance afin de confesser votre péché. Parce que comme je l'ai déjà dit lors d'un message précédent, notre péché impacte l'Église. Et je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas ça. Qui croient que ce que je fais chez moi n'affecte pas l'Église. Non, ça va. Je disais, malheureusement, il y a des gens qui croient que leur péché n'affecte pas l'Église. Nous savons quand même que nous sommes le corps de Christ, nous sommes le corps qui forme l'Église, et que l'un est le petit doigt, l'autre est un œil, l'autre est une oreille, mais nous faisons partie de ce corps. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous encourage, si un membre souffre, que tous les membres souffrent avec lui. Que si un se réjouit, que tous se réjouissent avec lui. Et frères et sœurs, je veux vraiment insister là-dessus. Notre péché touche l'Église. Mais gloire à Dieu, si nous nous repentons, Dieu nous pardonne, il nous purifie et il nous restaure. Et du coup, s'il le fait pour nous, ça a un impact dans l'Église. En fait, l'ennemi sait très bien comment travailler pour diminuer la force de l'Église. Et souvenez-vous du dernier message que je vous avais apporté, c'était concernant la division. Frères et sœurs, si nous sommes divisés, nous ne faisons pas l'œuvre de Jésus-Christ. Nous pouvons être en désaccord les uns avec les autres, mais c'est important de se réconcilier et de revenir à cette unité que Jésus a déclarée sur l'Église parce qu'il a payé tellement cher pour ça. Il a payé tellement cher pour ça. Que l'on soit dans la vérité ou non, cela ne change rien la puissance de Dieu. Mais par contre, c'est très différent pour notre propre vie. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je suis parfois attristé d'entendre que des chrétiens croient que parce que Dieu est tout-puissant, il ne va pas permettre certaines choses dans nos vies. Mais Dieu est tout-puissant, mais il n'ira jamais au-delà de ce que nous lui permettons de faire. Mais si nous ne réglons pas nos situations, Dieu ne fera rien. Et c'est là où je disais, enfin, il ne faut pas se leurrer. En tant que corps de Christ, nous avons cette responsabilité. Et je suis pour voir la puissance de Dieu se manifester. Je discutais hier avec quelqu'un qui me disait, moi, je n'ai pas besoin de voir des miracles. Alors peut-être, il disait, je dois travailler là-dessus parce que des miracles existent et gloire à Dieu qu'il y ait des miracles. Mais la puissance de Dieu ne se manifestera pas si nous restons dans notre individualisme. Notre responsabilité, est, peut-être que vous allez dire, mais dans ce qu'il dit, qu'est-ce que ça a à voir avec la séduction ? Mais justement, c'est parce que la séduction, elle vient sournoisement et elle vient saper des choses dans nos vies, parfois que nous ne voyons pas ou que nous ne voyons plus. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin des uns des autres afin de nous édifier, de nous fortifier, de nous conduire dans la vérité de Dieu. La séduction de demain. Alors nous trouvons plusieurs passages dans le Nouveau Testament qui nous mettent en garde. Et je vais juste vous en donner quelques-uns. Jésus nous a prévenus. Alors c'est vrai que dans les lettres, l'apôtre Paul nous a prévenus. Mais déjà Jésus nous prévenait et disait, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Donc ne pensez jamais que la séduction c'est pour les autres. Si l'ennemi met tout ça en œuvre au niveau de la séduction, c'est afin de séduire les élus s'il est possible. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. On ne peut rien en retirer. On ne peut pas retirer un seul iota de la parole de Dieu. Un seul point. Thessaloniciens 2, 9 à 11. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de signes, de miracles et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et donc, quand je discutais avec cette personne hier et qui me disait « moi, je n'ai pas besoin de miracles », quand je lis ça, je me dis « mais les miracles, oui, mais quel miracle ?» Cet été, je suis allé à Saint-Laurent-du-Pont et il y a un frère de plus de 80 ans qui témoignait et qui disait, il a rencontré quelqu'un qui avait une puissance de guérison et de miracle, c'était impressionnant. Il a donné des témoignages, il a vu des choses, et puis à un moment donné, il s'est posé la question, il est allé le voir et il lui a dit, de qui as-tu reçu cette puissance ? Et cette personne lui a dit, je l'ai reçu de l'archange Gabriel. Là, tout de suite, vous pouvez fermer la porte et éviter ce genre de personne. Les miracles sont opérés par Jésus-Christ au travers de nos vies. Et que par lui. Si ça ne vient pas, si la source n'est pas de Jésus-Christ, c'est de la séduction. Et en lisant ça et en entendant ce témoignage, eh bien, c'est tellement clair de dire, mais en fait, l'ennemi va venir avec une puissance de miracle, de guérison, qui va séduire, même s'il est possible, les chrétiens. Jésus disait, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ne vous laissez pas séduire parce que les gens peuvent vous dire, mais vérifiez la vie des gens. La séduction ne viendra jamais comme un gros camion, car cela vous mettrait tout de suite en alerte. Par contre, la séduction est subtile et ça ressemble à, mais ce n'est pas. Cet homme qui avait la puissance pour les miracles et les guérisons, il avait la puissance, mais la puissance ne venait pas de Jésus-Christ. Ça ressemblait à, mais ce n'était pas. Et je pense qu'il n'y a qu'une seule chose qui puisse nous garder de la séduction, c'est la vérité. Être imprégné de la parole de Dieu, de Jésus, parce que Jésus est la parole de Dieu et il est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 1, 14 dit « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. » Et là, encore une fois, ça peut être de la séduction. La parole de Dieu, Jésus, a habité parmi nous, pleine de grâce. Cette grâce qui me permet ou qui me fait croire que je peux faire ce que je veux. Mais le verset ne s'arrête pas là, c'est « et de vérité ». Nous ne pouvons pas séparer l'un de l'autre. Il faut autant la grâce que la vérité. Quand Jésus était sur la terre, il a manifesté les deux dans un juste milieu. Si vous laissez la grâce opérer, vous allez être séduit. Si vous laissez la vérité opérer, vous risquez d'être séduit aussi. La Bible dit que la lettre tue et l'esprit vivifie. Donc la vérité peut tuer parce qu'on va prendre des versets et on va tuer les gens avec les versets. L'équilibre est super important. La grâce et la vérité. Si je vous donne un billet de 70 euros, est-ce que vous allez le prendre ? Vous allez me dire, tu te moques de moi, Jean-Luc ? C'est un faux. Ça n'existe pas, les billets de 70 euros. Et si je te donne un billet de 50 euros, est-ce que tu vas le prendre ? Et là, tout est la question. Saurez-vous si c'est un vrai ou un faux ? Quand vous irez au magasin et qu'ils le passeront dans la machine, certainement que vous saurez s'il est vrai ou s'il est faux. Ne vous laissez pas séduire. Restez attaché à la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, allez voir un frère, allez voir une sœur. Je dis allez voir un frère pour les frères, allez voir une sœur pour les sœurs, afin de voir si ce que vous êtes en train de vivre avec d'autres personnes, est-ce que c'est pas de la séduction, est-ce que ça ne vous éloigne pas de Dieu ? Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai pu partager. S'il y a quelque chose qui vous paraît ou pas clair, alors bon, si c'est un peu compliqué, vous pouvez venir me voir après, mais en tout cas, je veux vraiment vous encourager à ne pas vous laisser séduire. Parce que dans les temps qui viennent, et je vous le disais la dernière fois en parlant de la division, il va y avoir de nombreux sujets de division dans les temps qui viennent. Mais nous, en tant que chrétiens, notre responsabilité, c'est de veiller à rester unis les uns avec les autres. Et notre responsabilité, c'est de veiller les uns sur les autres afin de ne pas être séduits par ce qui va arriver dans les temps qui viennent. La séduction hier, aujourd'hui et demain, quand on lit la parole de Dieu, on a des exemples. Et on a des exemples de ce qui va arriver à la fin des temps. Donc, Jamais, au grand jamais, s'il vous plaît, ne dites ça ne me concerne pas. Je suis chrétien, ça ne me concerne pas. Les versets que je vous ai lus, c'est il viendra séduire, s'il est possible, même les élus. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour qui tu es. Merci pour ta parole qui est vivante et efficace. Merci Seigneur pour tous les encouragements que tu nous donnes. Et donne-nous Seigneur de saisir par l'esprit, pas par notre intelligence, mais par l'esprit, ce que tu veux nous enseigner, ce que tu veux nous communiquer. Et Seigneur, je prie pour que dans tout ce que j'ai pu partager, s'il y a des choses qui n'étaient pas bien, pas justes, eh bien, que ce soit ôté, mais que ce que toi tu dis, ce qui vient de ta parole, reste dans les cœurs. Et que chacun puisse effectivement, comme le dit ta parole, pour les prophéties, d'examiner toutes choses. Et Seigneur, même le dimanche matin, quand quelqu'un prêche, on ne doit pas tout avaler ce qu'il nous dit. Mais on doit vérifier dans la parole de Dieu si ce qui a été partagé, c'est la vérité. Et je prie, Seigneur, pour que tu donnes du discernement à chacun d'entre nous, afin que nous ne tombions pas dans les pièges de l'ennemi. Et je te prie, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.